Bonjour à tous. Merci Thomas pour cette première temps où tu nous as vraiment invité à réfléchir sur la pauvreté. Merci aussi pour le groupe de louange qui nous a vraiment bien introduit dans la louange pour le pardon, pour vraiment la réconciliation avec le Seigneur et aussi surtout que nous puissions vraiment aussi aller de l'avant en aidant ceux qui sont dans le besoin. Alors aujourd'hui, ce matin, parler une partie de la pauvreté, l'ensemble. Tout d'abord, j'aimerais vraiment vous parler d'un prophète. Est-ce que vous savez le rôle d'un prophète à l'époque de l'Ancien Testament? Oui? 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 Comment? Oui, c'est ça, transmettre, parler au nom de Dieu. Et à l'époque de l'Ancien Testament, Dieu avait appelé justement pas mal de serviteurs pour qu'ils puissent transmettre la parole de Dieu au peuple de Dieu. Et à ce moment-là, ils ont joué le rôle d'intermédiaire entre Dieu et le peuple. Je me dis, on pourrait être tous des prophètes aujourd'hui aussi. Pourquoi pas? Vous savez que nous avons été appelés à le servir aussi. Il y a le sacerdoce universel, c'est-à-dire que il n'y a pas que. Enfin, à l'époque de l'Ancien Testament, il n'y avait que des sacrificateurs qui pouvaient s'approcher de Dieu. Mais nous, aujourd'hui, nous pouvons nous approcher de Dieu à tout moment, que ce soit à la maison, que ce soit à l'église, etc. Et pourquoi ne pas chercher à être des messagers de la vérité et de l'amour de Dieu dans notre vie quotidienne? À réfléchir. Alors aujourd'hui, on va réfléchir sur le petit prophète Michée. On appelle petit prophète parce que le livre comporte peu de chapitres. Il y a à peu près 12 de petits prophètes, dont Michée, qui est un peu moins connu. Mais il est un peu moins connu surtout par rapport à Moïse, qui est un grand prophète, ou encore à Ésaïe qui a écrit à peu près 66 chapitres, alors que Michée, lui, il a écrit juste 7 petits chapitres. Mais son message est tout aussi important et mérite d'être étudié et compris. Quand vous entendez Michée, il serait important aussi de se souvenir deux autres prophètes de son époque. À l'époque de Michée, il y avait aussi d'autres prophètes qui exerçaient son ministère de prophète. Il s'agit de Osée, pratiquait son ministère au nord du royaume, enfin au royaume du nord, alors que Michée, lui, il pratiquait son ministère au royaume du sud. Il suffit de penser à la Corée du Sud et la Corée du Nord. La Corée du Sud, c'est un bon pays. La Corée du Nord, c'est un mauvais pays. Pareil. Le royaume du Sud, c'était plus ou moins bien. Parfois, il y avait des mauvais rois. Mais voilà, il y avait quand même des bons rois. Dans le royaume du Nord, il y avait des mauvais rois qui étaient souvent rebelles contre Dieu et idolâtres. Alors, voilà. Osée exercer son ministère, prêcher la parole au royaume du Nord, alors que Michée, lui, prêchait aussi dans le royaume du Sud. Mais malgré tout, le royaume du Sud était aussi un peu, entre guillemets, pourri aux yeux du Seigneur. Et puis, il serait intéressant de savoir un autre contemporain que Michée, il s'agit de Ésaïe, le grand prophète. Ce n'est pas un petit prophète, Ésaïe, c'est un grand prophète. Ils ont exercé même au même pays, c'est-à-dire dans le royaume du Sud. Ésaïe il est aîné à peu près de 25-26 ans par rapport à Michée. Donc il a déjà d'abord exercé son ministère et ensuite Michée s'est rejoint. Tout ça, alors ce qui est intéressant entre le livre d'Ésaïe et le livre de Michée, c'est qu'il raconte à peu près la même chose. Le message central, c'est le Messie, le Sauveur qui va revenir. Ce Messie va rétablir la relation entre Dieu et les hommes. Et les deux prophètes, justement, ont annoncé que le monde allait être réconcilié par le Fils de Dieu. Voilà, le message central de Michée et d'Ésaïe était de faire revenir le peuple. Repentez-vous, c'est ça. Repentez-vous, le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous, sinon le jugement s'ensuivrait. Donc il y a un appel à se repentir, à trouver la paix, et ainsi à trouver la paix et la sécurité, etc. Pour vous inviter à poursuivre la lecture du livre de Michée, je vais peut-être un petit peu vous donner citer quelques versets qui seraient intéressants dans chapitre 5, verset 1. Il est dit « Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. » Voilà, incroyable. Michée, 700 ans avant Jésus-Christ, est en train de prophétiser en disant que le Messie qui va venir bientôt, il naîtra de Bethléem. Super. Et il dit encore, dont l'origine remonte au temps ancien, au jour de l'éternité. Il est en train de parler que le Messie qui va venir, la postérité de David, n'est pas juste quelqu'un qui va naître, qui va commencer sa vie. Non, il a toujours existé depuis l'éternité. Dieu, le Fils de Dieu. Et puis, ce Dieu, ce Messie, le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Il est en train d'annoncer que, pas seulement l'Israël, mais les autres, le monde entier, le reste de ses frères reviendra auprès de Dieu et il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. Ça vous donne envie de lire, non, Michée, pour savoir qu'est-ce qu'il a prêché, qu'est-ce qu'il a prophétisé sur le Messie, mais aussi sur la repentance. Dans ce contexte, en tout cas, nous voyons que les Israélites, à l'époque, étaient corrompus en raison de leur piété superficielle et de leur pratique légaliste. Ainsi, la justice, on ne pouvait pas voir la justice. La justice a été sacrifiée pour le profit personnel. Michée a donc appelé à la repentance et au retour à Dieu afin de retrouver la justice et la paix dans le pays. La repentance, c'est quoi? Quand il appelle à la repentance, bien sûr, il y a plusieurs sortes de repentance. La première repentance, je dirais, le plus important, pour le salut, pour les mécréants, pour ceux qui ne croyaient pas en Dieu, pour ceux qui étaient loin de Dieu, rappel à la repentance pour revenir, pour croire, pour être disposé à suivre le Seigneur. Ça, c'est comme le fils prodigue qui est parti et puis qui revient auprès du Père. Et puis, il y a d'autres repentances. Alors, la première repentance, c'est en lien avec la justification. Lorsque nous sommes revenus, nous sommes convertis véritablement avec notre foi, avec notre demande de pardon, avec le sacrifice de Jésus-Christ, notre péché du passé, du présent, du futur a été pardonné pour de bon, par le sacrifice de Jésus-Christ. Mais il y a encore d'autres repentances que Dieu nous demande de faire. C'est la repentance quotidienne que nous pourrions faire. Ça, c'est en vue de la sanctification. Ça n'a rien à voir avec le salut, mais ça aide à progresser, à faire travailler notre piété par rapport à notre Dieu. Et puis, dans ce cadre de sanctification, Dieu nous appelle aussi à se retrouver au jour de sabbat pour renforcer notre lien avec Dieu au niveau communautaire. Et avec quelle disposition, dans ce cas-là, nous devrions-nous venir dans cette église pour rencontrer le Seigneur? La question que j'aimerais vous poser, c'est avec quelle disposition de cœur êtes-vous venu ce matin? Vous êtes dit, je viens à l'église parce que par habitude, parce que c'est le dimanche, je viens tout le temps. Ou bien, peut-être vous êtes venu malgré vous, vous n'aviez pas vraiment envie de venir, de vous lever, mais que votre papa vous a vraiment incité à vous lever, ou votre copain, vous a téléphoné pour que vous puissiez venir. Malgré vous, vous êtes venu, ou par culpabilité, ça fait longtemps que je n'ai pas été, donc est-ce par culpabilité vous êtes venu? Ou bien parce que vous avez vraiment désiré à rencontrer le Seigneur que vous êtes venu. Vous aviez vraiment un désir ardent de rencontrer le Seigneur. Le verset d'aujourd'hui est en rapport avec cette disposition de cœur. Dans Michée, chapitre 6, verset 6, il est écrit. Michée se posait pas mal de questions aussi en se présentant devant le Seigneur. Et il s'est dit, avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Seigneur, le Dieu très haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? Voilà, jusqu'ici. Dans ce verset, Michée essaie de chercher, de trouver pour plaire à Dieu. Et il est en train de dire, mais comment je pourrais venir auprès de Dieu? Avec quoi? Avec quoi? Avec quelque chose de valeur, comme peut-être, comme dit la loi, avec des holocaustes, avec des veaux d'un an, ce qui était parfaitement légitime par rapport à la loi. Il est en train de dire, oui, je connais la loi, mais ça ne suffit pas. Il fallait vraiment la pratique de la loi. Il fallait mettre en pratique ce que nous savons. Voilà, nous devons être conscients que peut-être les comportements des croyants malhonnêtes que Michée a vus à son époque pourraient être aussi les nôtres d'aujourd'hui. Les gens, soi-disant chrétiens, soi-disant croyants, à l'époque, les gens étaient rebelles. Ils faisaient pas mal de compromis. Ils étaient même parfois loin de Dieu. Même idolâtres aussi, soi-disant pratiquaient la justice et la loi. Nous aussi, on n'est pas meilleurs pour les critiquer. Nous avons aussi tendance parfois à nous éloigner de Dieu. C'est pour ça que cette repentance journalière est importante. Le prophète ici nous enseigne aujourd'hui que si nous voulons véritablement adorer Dieu et revenir à lui, nous devons réfléchir à ce que nous apportons devant lui. Nous devons nous demander ce qui plaira à Dieu et faire des efforts pour trouver ce que nous pouvons lui offrir. Nous devons nous rappeler que Dieu ne sera réellement satisfait que si nous apportons quelque chose, notre vie, qui vient du fond du cœur. Nous devons nous méfier de nos tendances à suivre aveuglément des traditions ou des pratiques religieuses formelles. Car cela ne suffit pas pour satisfaire Dieu. Nous devons plutôt chercher à vivre une vie de foi authentique et sincère que nous pourrions lui offrir. Ici, Michée ne dit jamais que le culte, les sacrifices sont inutiles. Au contraire. Mais ce qui est important, c'est que Dieu a horreur des cultes formels avec religiosité. Maintenant, nous allons encore écouter la voix de Michée qui dit ainsi, je relis encore la fin du verset 6 et je vais lire aussi le verset 7. Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile, ça coûte très cher. Ça. C'est comme si, est-ce que si je viens avec tout l'or du monde, toute la richesse du monde, est-ce qu'il va agréer ça? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme, le fruit de mes entrailles? Il est même jusqu'à dire que, après avoir dit, est-ce que je dois offrir tout l'or du monde? Et maintenant, il est en train de dire, est-ce que je dois même sacrifier mon propre enfant pour être pardonné? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Mais on voit vraiment sa disposition de cœur. Il est toujours en train de réfléchir pour comment plaire à Dieu. Comment Dieu va pouvoir accepter ma présence devant le Seigneur. Michée réfléchit à la manière donc dont il peut adorer Dieu en se demandant si offrir des holocaustes ou des veaux, etc. sont acceptables. Il se soucie vraiment de la relation entre lui et Dieu. Et devant toutes ces questions, il se dit, mais est-ce que c'est le veau? Est-ce que c'est le sacrifice? Est-ce que c'est tout l'or du monde? Est-ce que c'est vraiment mon jusqu'à même sacrifier mon propre fils? Même, il est en train de dire, est-ce que je dois même me sacrifier? Et la réponse qu'il donne, c'est dans le verset 8. Il dit, on t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Là, il est en train de dire, enfin, Dieu est en train de dire, toi, tu connais toutes choses déjà. Tu as déjà reçu les prophéties. Tu as déjà reçu la parole, la loi, à travers Moïse, à travers les prophètes, à travers voilà, les messagers de Dieu. Et ce que l'Éternel demande de toi, ça c'est le titre de la prédication d'aujourd'hui. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, premièrement. Que tu aimes la miséricorde, deuxièmement. Et que tu marches humblement avec ton Dieu. C'est ça la réponse qu'il s'est donnée. Pour nous approcher de Dieu, il faut que nous pratiquions la justice, que nous aimions la miséricorde, que nous marchions humblement avec notre Dieu. Voilà la réponse que Michée donne à ces questions pour revenir à Dieu, pour plaire à Dieu. Alors, qu'est-ce que c'est que pratiquer la justice? Dans Deutéronome 6, 25, il nous est dit, pour nous, la justice sera d'observer et de mettre en pratique tous ses commandements devant l'Éternel, notre Dieu, comme il nous l'a commandé. Voilà, c'est quoi la justice? C'est d'obéir. C'est quoi la justice? C'est pratiquer la loi. C'est ça, là. C'est ça, vraiment, la réponse exacte. Alors, c'est quoi tous les commandements? Tous ces commandements qu'on doit, comment on pourrait pratiquer tous ces commandements? Comment savoir? Heureusement, Jésus a résumé ceci en une phrase. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Voilà la première chose qu'il faut faire. Et voici le deuxième, qui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà deux résumés de toute la loi. Et lorsque nous respectons ces deux lois, déjà, nous pratiquons la justice. Comment on peut aimer notre Seigneur? Je pense qu'on peut aussi avoir, en ayant une relation intime avec le Seigneur, en ayant cette vie de repentance journalière pour améliorer notre sanctification, dans ce cadre-là, on pourrait même voilà, pratiquer la prière de manière un peu plus régulièrement possible, et même en lisant régulièrement la parole de Dieu. Comment nous pourrions aussi aimer notre prochain? Nous avons tout à l'heure chanté « Pardon au Seigneur ». Oui, en pardonnant notre prochain. En pardonnant à ceux qui nous ont offensés. Oui, on prie comme ça, Dieu, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Voilà, nous prions justement pratiquer ce pardon pour pouvoir pratiquer la justice. Et puis, tout au long de cette première partie de présidence, on a beaucoup parlé du sel. Et voilà, ça c'est aussi en lien avec ça, en partageant. Dans Ézéchiel 18:7, il nous rappelle que l'homme qui est juste donne son pain à celui qui a faim. Voilà. Comment ne pas ignorer ceux qui sont proches de nous, qui ont faim? Dans l'église naissante de Jérusalem, les chrétiens ont exercé, ont mis en pratique. Quand ils ont commencé à croire en Dieu, ils se sont rassemblés, ils ont nourri les pauvres, ils les ont pris soin. Et de même, voilà, le Seigneur aussi nous demande de le faire, la même chose, peut-être en parrainant un enfant. Si le Seigneur vous donne à cœur à parrainer un enfant, pourquoi pas? Ça aussi, ça peut être une possibilité. Bon, il n'y a pas que ça, il y a encore d'autres choses. Nous avons aussi la banque, l'entraide alimentaire à l'église même. Vous pourriez aussi ramener assez régulièrement les aliments pour que voilà, les personnes qui en ont besoin puissent en profiter. Enfin, ou le vestiaire aussi, qui est toujours à disposition pour tout le monde, etc. En partageant. C'est avec cet esprit de partage que nous pouvons progresser ensemble, avancer ensemble. Je vais donner un petit exemple. Voilà, je vais vous raconter l'histoire d'une maman Hélène qui habite à Kinshasa. Elle décide un jour d'accueillir des enfants de rue et puis même des enfants, des jeunes filles prostituées. Cette dame, maman Hélène, n'a aucune idée de la manière dont Dieu va la conduire. Mais je pense qu'elle avait vraiment reçu l'appel. Et puis elle était convaincue par l'esprit qu'elle doit servir auprès des enfants, auprès de ces jeunes filles prostituées. Ben dans ce cas-là, après avoir été convaincue, elle quitte son travail en 2003. Elle se lance à plein temps et fonde l'association Bana Ya Kivuvu, qui est partenaire du CEL. Aujourd'hui, elle regroupe 40 collaborateurs et plusieurs centaines de personnes accompagnées pour prendre soin de toutes ces personnes depuis 19 ans. Maman Hélène aussi a fait confiance à Dieu et a avancé par la foi. Peut-être au début, elle ne voyait rien, mais quand elle a vraiment commencé son association, avec foi, le Seigneur les a pourvus. Voilà comment nous pourrions pratiquer la justice en partageant. Tout le monde n'est pas appelé à créer une association comme cette maman Hélène. Mais à notre niveau, le Seigneur aussi appelle à faire quelque chose. Comme tout à l'heure, Jeff a dit, ça pourrait être une goutte d'eau, mais quand une goutte d'eau se rassemble, ça fait quand même pas mal, qui peut influencer même le monde. Voilà, c'est comme ça que nous pouvons pratiquer la justice. Sachez que, il ne faut pas espérer que la justice sera... La justice parfaite, bien sûr, sera là-haut, dans les cieux. Il y aura toujours de l'injustice sur cette terre. Mais le Seigneur aimerait qu'on fasse aussi des efforts pour vivre les réalités du royaume de Dieu, même déjà maintenant sur cette terre. Que nous puissions vraiment réfléchir. Voilà, que tu pratiques la justice. La deuxième chose, c'était quoi? Que tu aimes la miséricorde. Que tu aimes la miséricorde. La miséricorde, je n'étais pas très sûr, alors j'ai cherché dans la Bible hébraïque, dans la Bible hébraïque, et là, l'auteur a utilisé le mot « resed ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire « resed » ? Ça pourrait dire la miséricorde, mais aussi c'est la bonté de Dieu. La bonté de Dieu, resed. Répétez après moi, resed. Voilà, resed. Maintenant, vous avez appris le mot. Ça peut bien vous dire miséricorde, mais aussi la bonté de Dieu, ou bien la bonté de l'homme envers son prochain. Ça, c'est resed. Il y a plusieurs. C'est difficile de dire en un seul mot en français. Il y a plusieurs choses qui englobent tout ça, resed. Voilà, c'est un acte de bienveillance aussi. Donc, il est en train de dire que tu aimes, recède. Tu aimes la miséricorde, la bonté de Dieu, la bonté de l'homme envers son prochain, l'acte de bienveillance, etc. Il y a tellement de choses dans ce mot. Et dans d'autres versets, Michée utilise le même mot. La miséricorde, c'est dans le chapitre 7, au verset 18, il est dit « Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à resed, à la miséricorde. » Pour dire que cette miséricorde, cette bonté de Dieu, pardonne l'iniquité. N'oublie pas nos péchés. Alors que nous méritions toute la colère, Dieu nous pardonne. Voilà, à travers le sacrifice de Jésus-Christ, nous avons reçu cette miséricorde, cette justification. En rapport avec cette miséricorde et la justice, oser qui a aussi prophétisé dans le royaume du Nord, a parlé ainsi dans chapitre 12, verset 6. Et toi, reviens à ton Dieu. C'est le même message, appel à la repentance. Reviens à ton Dieu, garde la piété. La piété ici, c'est recède. Voilà, c'est intéressant. Hein? Donc là, il est en train de parler de la bonté, de la miséricorde. Garde la bonté, la miséricorde et la justice. C'est en rapport, c'est exactement la même, je dirais, le même message que Michée avait prononcé dans le chapitre 6, verset 6. Et espère toujours en l'Éternel. On peut traduire par « soit avec l'Éternel ».« Soit avec l'Éternel ». Voilà donc deuxième recommandation, que tu aimes la miséricorde, que tu aimes la bonté de Dieu et que tu aimes la bonté de la bonté que nous avons envers notre prochain. Que nous soyons vraiment des bienveillants. Et puis, troisième message, que tu marches humblement avec ton Dieu. Ça fait penser un petit peu dans Matthieu 11, où il est dit que « Venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. » Et ensuite, il nous invite aussi à porter des jougs. Mais il dit que ce joug, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Pourquoi je vous cite cette parole? Parce que c'est en lien avec que tu marches humblement avec ton Dieu. Vous savez qu'un joug est une lourde pièce en bois, je pense qu'on vous avait déjà montré ça dans le passé, qu'on met sur deux bœufs pour qu'ils tirent une charrette, et que les deux bœufs peuvent tirer ensemble. Mais ici, Jésus est en train de dire que notre joug sera léger, doux, parce que c'est lui qui va tout porter en fait. Nous, on va faire semblant de porter, mais c'est lui qui porte tout, presque tout en tout cas. Nous avons un petit poids à supporter. Et il est en train de dire que oui, tu vas marcher maintenant avec moi. Que tu marches humblement avec ton Dieu. Par contre, dans cette marche, il ne faut pas que tu décides ta propre direction. Il faut laisser Jésus choisir la direction de la charrette. C'est comme ça que nous pouvons avancer ensemble. Parfois, les gens disent, mais Seigneur, je veux ça, et toi, tu me suis. Souvent, on voit des gens comme ça, et même moi aussi. Seigneur, j'aimerais ceci, je ne sais pas quelle est ta volonté, mais je veux absolument aller dans cette direction. Là, le Seigneur ayant dit que tu marches humblement, c'est-à-dire, regarde, suis les pas de Dieu. Pas que tu diriges ton propre chemin, pour tomber, pour trébucher à la fin. Et reste humble devant Dieu, et lui, confie-lui ton sort, c'est ça. C'est ainsi que Dieu agira. Voilà. J'aimerais conclure. Même dans l'Ancien Testament, l'Ancien Testament ne dit pas qu'on peut revenir avec des sacrifices. Ce n'est pas seulement dans le Nouveau Testament, mais dans l'Ancien Testament même, on voit bien qu'il y a une difficulté de revenir à Dieu seulement avec des sacrifices. Pour revenir auprès de Dieu, il faudrait un cœur sincère, authentique, comme un vrai adorateur. Oui, Dieu cherche des adorateurs qui le louent en esprit et en vérité. Dans Psaume 40, verset 6, il est écrit « Tu ne désires ni sacrifice, ni offrande. » Tu m'as ouvert les oreilles, tu ne demandes ni holocauste, ni victime expiatoire. Dans Psaume 51, David qui dit, si tu eusses voulu des sacrifices, tu t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé, un esprit repentant. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion, bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. La première chose que nous devrions faire, c'est vraiment avoir un esprit brisé, humble, devant le Seigneur. Il ne faut pas se contenter de venir à l'église en se disant que j'ai pratiqué ma foi, ma vie de cette semaine. Certes, c'est bien d'être à l'église qu'ailleurs, mais ce n'est pas cela que Dieu demande. Il veut vraiment que nous ayons un esprit brisé devant le Seigneur. Et ainsi, on peut pratiquer la justice, voilà, en aimant Dieu, bien sûr, et notre prochain, à travers aussi le sel, par exemple. Que tu aimes aussi la miséricorde et la bonté envers Dieu, à travers aussi le sel, mais aussi autre chose, bien sûr, envers mon prochain. Et puis, que tu marches humblement avec Dieu, que nous puissions vraiment cheminer ensemble avec le Seigneur, en écoutant à son écoute. Que le Seigneur nous bénisse. Oui, j'aimerais encore vous relire verset 8, chapitre 6, verset 8, pour terminer. « On t'a fait connaître, ô Dieu, ce qui est bien. » Oui, nous avons tellement appris des choses à travers le culte, à travers les études bibliques, à travers la lecture de la Bible. Nous savons des choses, mais ce n'est pas suffisant. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques, mettre en pratique la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Amen. Voilà, je vais prier.